Chapitre 2. Décidément, la famille se range. Madame la duchesse de Berry, chez laquelle se rendait le régent, était, quoi qu'il en eût dit, la fille bien-aimée de son cœur. Prise à l'âge de 7 ans d'une maladie que les médecins avaient jugée mortelle et abandonnée par eux, elle était retombée entre les mains de son père, qui faisait un peu de médecine, comme on le sait, et qui, en la traitant à sa manière, était parvenu à la sauver. Dès lors, cet amour paternel du régent pour elle était devenu de la faiblesse. À partir de cet âge, il avait laissé faire à cet enfant, volontaire et hautaine, tout ce qu'elle avait voulu. Son éducation, fort négligée, s'était ressentie de cet abandon à sa propre volonté, ce qui n'avait pas empêché que Louis XIV ne la choisît pour devenir la femme de son petit-fils, le duc de Berry. On sait comment la mort fondit tout à coup sur la triple postérité royale et comment moururent, en quelques années, le grand dauphin, le duc et la duchesse de Bourgogne et le duc de Berry. Restée veuve à 20 ans, aimant son père d'une tendresse presque égale à celle qu'il lui avait vouée, ayant à choisir entre la société de Versailles et celle du palais royal, la duchesse de Berry, belle, jeune, ardente au plaisir, n'avait pas hésité. Elle avait partagé les fêtes, les plaisirs et même quelquefois les orgies du duc. Et soudain, d'étranges calomnies, sortant à la fois de Saint-Cyr et de Sceaux, venant de Madame de Maintenon et de Madame Dumaine, s'étaient répandues sur les relations du père et de la fille. Le duc d'Orléans, avec son insouciance ordinaire, avait laissé ses bruits devenir ce qu'il pouvait, et ces bruits étaient devenus et sont restés de belles et bonnes accusations d'inceste, qui, pour n'avoir aucun caractère historique aux yeux des hommes qui connaissent à fond cette époque, n'en sont pas moins une arme aux mains des gens qui ont intérêt à noircir la conduite de l'homme privé pour diminuer la grandeur de l'homme politique. Ce n'était pas tout. Par sa faiblesse sans cesse croissante, le duc d'Orléans avait encore accrédité ses bruits. Il avait donné à sa fille, qui avait déjà 600 000 livres de rente, 400 000 francs sur sa propre fortune, ce qui portait son revenu à 1 000 000. Il lui avait en outre abandonné le Luxembourg, il avait attaché une compagnie de garde à sa personne. Enfin, ce qui avait exaspéré les prôneurs de la vieille étiquette, il n'avait fait que hausser les épaules lorsque la duchesse de Berry avait traversé Paris, précédée de cymbales et de trompettes, ce qui avait scandalisé toutes les honnêtes gens, et que rire lorsqu'elle avait reçu l'ambassadeur vénitien sur un trône élevé de 3 marches, ce qui avait manqué nous brouiller avec la République de Venise. Il y avait plus. Il était sur le point de lui accorder une autre demande, non moins exorbitante, qui certainement eût amené un soulèvement dans la noblesse. C'était un dé à l'opéra, lorsque, heureusement pour la tranquillité publique et malheureusement pour le bonheur du régent, la duchesse de Berry s'était prise d'amour pour le chevalier de Rion. Le chevalier de Rion était un cadet d'Auvergne, neveu ou petit-neveu du duc de Lauzun, qui était venu en 1715 à Paris pour chercher fortune et qu'il avait trouvé au Luxembourg. Introduit près de la princesse par Madame de Mouchy, dont il était l'amant, il n'avait pas tardé à exercer sur elle cette influence de famille que son oncle, le duc de Lauzun, avait 50 ans auparavant exercée sur la grande demoiselle, et bientôt il avait été déclaré amant en titre, malgré l'opposition de son prédécesseur La Haye, qu'on avait alors envoyé comme attaché à l'ambassade de Danemark. La duchesse de Berry n'avait donc eu de compte fait que 2 amants, ce qui, on en conviendra, était presque de la vertu pour une princesse de ce temps-là. La Haye, qu'elle n'avait jamais avouée, et Rion, qu'elle proclamait tout haut. Ce n'était donc véritablement point une cause suffisante à l'acharnement avec lequel on poursuivait la pauvre princesse. Mais il ne faut point oublier que cet acharnement avait une autre cause, que nous trouvons consigné non seulement dans Saint-Simon, mais encore dans toutes les histoires de l'époque. C'est cette fatale promenade dans Paris avec cymbales et clairons, ce malheureux trône à trois marches sur lequel elle avait reçu l'ambassadeur de Venise, enfin cette exorbitante prétention, ayant déjà une compagnie de garde, d'avoir encore un dé à l'opéra. Mais ce n'était pas cette indignation générale soulevée par la princesse qui avait fort ému contre sa fille le duc d'Orléans. C'était l'empire qu'elle avait laissé prendre à son amant. Rion, élève de ce même duc de Lauzun qui écrasait le matin la main de la princesse de Monaco avec le talon de ses bottes, qu'il se faisait tirer le soir par la fille de Gaston d'Orléans et qui avait, à l'endroit des princesses, donné à son neveu de terribles instructions que celui-ci avait suivies à la lettre, les filles de France, avait dit Rion, veulent être menées le bâton haut. Rion, plein de confiance dans l'expérience de son oncle, avait en effet si bien dressé la duchesse de Berry que celle-ci n'osait plus donner une fête sans son avis, paraître à l'opéra sans sa permission et mettre une robe sans son conseil. Il en était résulté que le duc, qui aimait fort sa fille, s'était pris pour Rion, qui l'éloignait de lui, d'une haine aussi forte que celle que son caractère insoucieux lui permettait de ressentir. Sous prétexte de servir les vues de la duchesse, il avait donné un régiment à Rion, puis le gouvernement de la ville de Cognac, puis enfin l'ordre de se rendre dans son gouvernement, ce qui commençait, pour toutes les personnes qui voyaient un peu clair, à changer sa faveur en disgrâce. Aussi la duchesse ne s'y était pas trompée. Elle était accourue au palais royal, quoique relevant de couches, et là, elle avait prié et supplié son père, mais inutilement. Puis elle l'avait boudé, grondé, menacé, mais inutilement encore. Enfin, elle était partie, menaçant le duc de toute sa colère, et lui affirmant que, malgré son ordre, Rion ne partirait pas. Le duc, le lendemain matin, avait pour toute réponse réitéré à Rion l'ordre de partir, et Rion lui avait fait respectueusement dire qu'il obéissait à l'instant même. En effet, le même jour, qui était la veille de celui où nous sommes arrivés, Rion avait ostensiblement quitté le Luxembourg, et le duc d'Orléans avait été prévenu par Dubois lui-même que le nouveau gouverneur, suivi de ses équipages, était parti à 9 heures du matin pour Cognac. Tout cela s'était passé sans que le duc d'Orléans revît sa fille. Aussi, lorsqu'il parlait de profiter de sa colère pour aller en finir avec elle, c'était bien plutôt un pardon qu'il allait lui demander qu'une querelle qu'il allait lui faire. Le carrosse s'arrêta devant le Luxembourg, qui était éclairé comme d'habitude. Le duc descendit et monta le perron avec sa vivacité ordinaire. Quant à Dubois, que la duchesse exécrait, il resta pelotonné dans un coin de la voiture. Au bout d'un instant, le duc reparut à la portière, le visage tout désappointé. « Ah, monseigneur, dit Dubois, est-ce que votre Altesse serait consignée par hasard ?»« Non, mais la duchesse n'est point au Luxembourg. Où est-elle, au Carmélite ?»« Elle est à Meudon. » »« À Meudon, au mois de février, et par un temps comme celui-ci, monseigneur, cet amour de la campagne me paraît suspect. À moi aussi, je te l'avoue, que diable peut-elle faire à Meudon ?»« C'est facile à savoir. Comment cela ?» « Allons à Meudon. »« Cocher, à Meudon, dit le régent, en sautant dans la voiture. Vous avez 25 minutes pour arriver. » Pendant toute la route, Dubois fut muet et le régent préoccupé. De temps en temps, l'un ou l'autre jetait un regard investigateur sur le chemin, mais le chemin n'offrait autre chose qui fût digne d'attirer l'attention du régent et de son ministre, et l'on arriva à Meudon sans que rien pût guider le duc dans le diable de pensées contradictoires où il était plongé. Cette fois, tous deux descendirent. L'explication entre le père et la fille pouvait être longue, et Dubois désirait en attendre la fin dans un endroit plus commode qu'une voiture. Sous le perron, ils trouvèrent le Suisse en grande livrée. Comme le duc était enveloppé de sa redingote fourrée et Dubois de son manteau, il les arrêta. Le duc alors se fit reconnaître. « Pardon, dit le Suisse, mais j'ignorais qu'on attendît monseigneur. » « C'est bien, dit le duc, attendu ou non, j'arrive. Faites prévenir la princesse par un valet de pied. » « Monseigneur est donc de la cérémonie ?» demanda le Suisse, qui paraissait visiblement embarrassé, enfermé qu'il était sans doute dans une consigne sévère. « Sans doute que Monseigneur est de la cérémonie, » répondit Dubois, coupant la parole au duc d'Orléans, qui allait demander de quelle cérémonie il était question. « Et moi aussi, j'en suis. Alors je vais faire conduire Monseigneur directement à la chapelle. » Dubois et le duc se regardèrent en hommes qui ne comprennent plus rien. « À la chapelle ?» demanda le duc. « Oui, monseigneur, car la cérémonie est commencée depuis près de 20 minutes. »« Ah ça !» dit le régent, en se penchant à l'oreille de Dubois, « est-ce que celle-ci aussi se fait religieuse ?»« Monseigneur, dit Dubois, gageons bien plutôt qu'elle se marie. »« Mais Dieu !» s'écria le régent, « il ne manque plus que cela !» Et il s'élança sur l'escalier, suivi de Dubois. « Monseigneur ne veut pas que je le fasse conduire ?» dit le Suisse. « C'est inutile !» cria le régent, déjà en haut de l'escalier. « Je sais le chemin !» Effectivement, avec cette agilité si étonnante dans un homme de sa corpulence, le régent traversait chambres et corridors, suivi de Dubois, qui, cette fois, prenait à l'aventure ce diabolique intérêt de la curiosité qui faisait de lui le Méphistophélès de cet autre chercheur de l'inconnu qu'on appelait non pas Faust, mais Philippe d'Orléans. Ils arrivèrent ainsi à la porte de la chapelle, qui paraissait fermée, mais qui s'ouvrit au premier effort qu'ils firent pour la pousser. Dubois ne s'était pas trompé dans ses conjectures. Rion, revenu en cachette après être parti ostensiblement, était avec la princesse à genoux devant l'aumônier particulier de madame la duchesse de Berry, tandis que monsieur de Ponce, parent de Rion, et le marquis de la Rochefoucauld, capitaine des gardes de la princesse, tenaient le poil sur leur tête. Messieurs de Mouchy et de Lauzun se tenaient, l'un à la gauche de la duchesse, l'autre à la droite de Rion. « Décidément, la fortune est contre nous, monseigneur, dit Dubois. Nous sommes arrivés trop tard de 2 minutes. » « Ah, ça, mais ils sont donc mariés ?» demanda le duc, en reculant sous l'action de Dubois, à l'ombre d'une colonne. « Tout ce qu'il y a de plus marié, monseigneur, et maintenant le diable lui-même ne les démarierait pas sans l'assistance du Saint-Père. »« Eh bien, j'écrirai à Rome, » dit le duc. « Gardez-vous-en bien, monseigneur, s'écria Dubois, n'usez pas votre crédit pour une pareille chose. Vous en aurez bien besoin quand il sera question de me faire nommer cardinal. » dit le régent, « une pareille mésalliance est intolérable. » « Oh, les mésalliances sont fort à la mode, » dit Dubois, « et l'on n'entend parler que de cela aujourd'hui. Sa Majesté Louis XIV s'est mésallié en épousant Madame de Maintenon, à laquelle vous faites encore une pension comme sa veuve. La grande mademoiselle s'est mésalliée en épousant Monsieur de Lauzun. Vous vous êtes mésallié en épousant Mademoiselle de Blois, et à telle enseigne que lorsque vous avez annoncé ce mariage à la princesse Palatine, votre mère, elle vous a répondu par un soufflet. Enfin, moi-même, monseigneur, ne m'étais-je pas mésallié en épousant la fille du maître d'école de mon village? Vous voyez bien, monseigneur, qu'après tant d'augustes exemples, la princesse, votre fille, peut bien se mésallier à son tour. « Tais-toi, démon, » dit le régent. « D'ailleurs, continua Dubois, voyez-vous, monseigneur, les amours de madame la duchesse de Berry commençaient à faire, grâce aux criailleries de l'abbé de Saint-Sulpice, plus de bruit qu'il ne convient. C'était un scandale public. Que ce mariage secret, qui sera connu demain de tout Paris, va faire cesser. Personne n'aura plus rien à dire, ni vous non plus. Oh, décidément, monseigneur, votre famille se range. » Le duc d'Orléans fit entendre une imprécation terrible, à laquelle Dubois répondit par un de ces ricanements que Méphistophélès lui eut envié. « Silence là-bas !» cria le Suisse, qui ignorait qui faisait ce bruit et qui voulait que les époux ne perdissent pas un mot de la pieuse exhortation que leur faisait l'aumônier. Silence donc, monseigneur, répéta Dubois, vous voyez bien que vous troublez la cérémonie. Tu vas voir, reprit le duc, que si nous ne nous taisons pas, elle va nous mettre à la porte. Silence donc, répéta le Suisse, en frappant la dalle du cœur de sa hallebarde, tandis que la duchesse de Berry envoyait monsieur de Mouchy savoir ce qui causait ce scandale. Monsieur de Mouchy obéit aux ordres de la princesse, et, apercevant dans l'ombre deux personnes qui semblaient se cacher, il s'approcha des interrupteurs, la tête haute, d'un pas hardi. « Qui donc fait ce bruit, dit-il, et qui vous a permis, messieurs, d'entrer dans la chapelle ?»« Celui qui aurait une bonne envie de vous en faire sortir tous par la fenêtre, » répondit le régent, « mais qui se contente pour le moment de vous charger de donner l'ordre à monsieur de Rion de repartir à l'instant même pour Cognac, et d'intimer à la duchesse de Berry la défense de se représenter jamais au palais royal. » À ces mots, le régent sortit en faisant signe à Dubois de le suivre, et en laissant le duc de Mouchy et son gros ventre atterrés de cette apparition. « Au palais royal !» dit le prince en s'élançant dans sa voiture. « Au palais royal ?» reprit vivement Dubois. « Non pas, monseigneur, vous oubliez les conventions. Je vous ai suivi à la condition que vous me suivriez à votre tour, cocher au faubourg Saint-Antoine. « Va-t'en au diable, je n'ai pas faim !» Soit, votre Altesse ne mangera pas. Je ne suis pas en train de m'amuser. Soit, votre Altesse ne s'amusera pas. Et que ferai-je alors si je ne mange ni ne m'amuse? Votre Altesse se verra manger et s'amuser les autres, voilà tout. Que veux-tu dire? Je veux dire que Dieu est en train de faire des miracles pour vous, monseigneur, et que, comme la chose ne lui arrive pas tous les jours, il ne faut pas abandonner la partie en si beau chemin. Nous en avons déjà vu deux ce soir. Nous allons assister à une troisième. À une troisième? Oui, numéro Deus impare Godet. Le nombre impair plaît à Dieu. J'espère que vous n'avez pas oublié votre latin, monseigneur. « Explique-toi, voyons, » dit le régent, dont l'humeur n'était pas pour le moment tournée le moins du monde à la plaisanterie. « Tu es assez laid, certainement, pour te poser en sphinx, mais moi, je ne suis pas assez jeune pour jouer le rôle d'Édipe. » « Eh bien, je disais donc, monseigneur, qu'après avoir vu vos deux filles, qui étaient trop folles pour faire leur premier pas vers la sagesse, vous allez voir votre fils, qui était trop sage, faire son premier pas vers la folie. Mon fils Louis, votre fils Louis, en personne, il se dégourdit cette nuit même, monseigneur, et c'est à ce spectacle si flatteur pour l'orgueil d'un père que je vous ai convié. » Le duc secoua la tête d'un air de doute. « Oh, secouez la tête tant que vous voudrez, monseigneur, cela est ainsi, » dit Dubois. « Et de quelle façon se dégourdit-il ? » demanda le régent. « De toutes les façons, monseigneur, et c'est le chevalier de M que j'ai chargé de lui faire faire ses premières armes. Il soupe à 7 heures en partie carrée avec lui et deux femmes. » « Quelles sont les femmes ?» demanda le régent. « Je n'en connais qu'une. Le chevalier s'est chargé d'amener l'autre. » « Et il y a consenti ?»« Ah, belle baise-main. » Oh, « sur mon âme, Dubois, dit le duc, je crois que si tu avais vécu du temps du roi Saint-Louis, tu aurais fini par le mener chez la Fillon de l'époque. » Un sourire de triomphe passa sur la figure de singe de Dubois. « Voilà, monseigneur, continua-t-il, vous vouliez que monsieur Louis tirât une fois l'épée, comme vous le faisiez autrefois, et comme vous avez encore la rage de le faire aujourd'hui. Mes précautions sont prises pour cela. » « Vraiment ?»« Oui, le chevalier de M lui cherchera en soupant une bonne petite querelle d'allemand. Rapportez-vous-en à lui pour cela. Vous vouliez que monsieur Louis courût quelque bonne chance amoureuse. S'il résiste à la sirène que je lui ai lâchée, c'est un Saint-Antoine. »« C'est donc toi qui l'as choisi ?» Comment donc, monseigneur, quand il s'agit de l'honneur de votre famille, votre Altesse sait que je ne m'en rapporte qu'à moi. À cette nuit donc l'orgie, à demain matin le duel. Et demain soir au moins, notre néophyte pourra signer Louis d'Orléans sans compromettre la réputation de son auguste mère, car on verra que le jeune homme est de votre sang, ce dont le diable m'emporte, à la singulière conduite qu'il mène, on serait tenté de douter. « Tu bois, tu es un misérable !» dit le duc en riant pour la première fois depuis qu'il avait quitté Chelles. « Tu vas perdre le fils comme tu as perdu le père !»« Tant que vous voudrez, monseigneur, » répondit Dubois. Le régent se mit à rire. « Ah, au moins, tu as de l'ambition, toi. Ce n'est pas comme cet imbécile de Louis qui ne désire rien. Et cette ambition me divertit plus que tu ne peux l'imaginer. » Vraiment, dit Dubois, je ne croyais pas cependant être si bouffon. Eh bien, c'était de la modestie, car tu es la plus amusante créature de la terre, quand tu n'es pas la plus perverse. Aussi, je te jure que le jour où tu seras archevêque, cardinal, monseigneur, c'est cardinal que tu veux être. En attendant que je sois pape. Bon, eh bien, ce jour-là, je te le jure. Le jour où je serai pape? Non, le jour où tu seras cardinal, on rira bien au palais royal, je te jure. On rira bien autrement dans Paris, allez, monseigneur, mais comme vous l'avez dit, je suis parfois bouffon et je veux faire rire. Voilà pourquoi je tiens à être cardinal. Et comme Dubois manifestait cette prétention, le carrosse cessa de rouler. Le carrosse s'était arrêté dans le faubourg Saint-Antoine, devant une maison masquée par un grand mur, derrière lequel montaient plusieurs peupliers, comme pour cacher cette maison aux murs eux-mêmes. « Tiens, dit le régent, c'est de ce côté, ce me semble, que se trouve la petite maison de noces. Justement, monseigneur a bonne mémoire, je la lui ai empruntée pour cette nuit. » « Et as-tu bien fait les choses, au moins, Dubois? Le souper est-il digne d'un prince de sang ?»« Je l'ai commandé moi-même. Ah, monsieur Louis ne manquera de rien. Il est servi par les laquais de son père, il est traité par le cuisinier de son père, il fait l'amour à la... »« À la quoi ?»« Vous le verrez vous-même, il faut bien que je vous laisse une surprise, que diable !» Et les vins? De vins de votre propre cave, monseigneur. J'espère que ces liqueurs de famille empêcheront le sang de mentir, car il ment depuis trop longtemps déjà. Tu n'as pas eu tant de peine à faire parler le mien, n'est-ce pas, corrupteur? Je suis éloquent, monseigneur, mais il faut convenir que vous étiez tendre. Entrons. Tu as donc la clé? Pardieu! Et Dubois tira de sa poche une clé qu'il fourra discrètement dans la serrure. La porte tourna sans bruit sur ses gonds et se referma sur le duc et sur son ministre sans avoir poussé le moindre cri. C'était une véritable porte de petite maison, connaissant son devoir vis-à-vis des grands seigneurs qui lui faisaient l'honneur de franchir son seuil. On vit aux persiennes fermées quelques reflets de lumière et les laquais, en sentinelle dans le vestibule, apprirent aux illustres visiteurs que la fête était commencée. « Tu triomphes, l'abbé, » dit le régent. « Plaçons-nous vite, monseigneur, » répondit Dubois. « J'avoue que j'ai hâte de voir comment monsieur Louis s'en tire. »« Moi aussi, » dit le régent. « Alors suivez-moi et pas un mot. » Le régent suivit en silence Dubois dans un cabinet qui, par une grande ouverture cintrée, communiquait avec la salle à manger. Cette ouverture était remplie de fleurs, à travers les tiges desquelles on pouvait parfaitement voir et entendre les convives. « Ah !» dit le régent en reconnaissant le cabinet, « je suis en pays de connaissances. » Plus que vous ne croyez, monseigneur, mais n'oubliez pas que quelque chose que vous voyez ou que vous entendiez, il faut vous taire, ou du moins parler bas. Sois tranquille. Tous deux s'approchèrent de l'ouverture qui donnait sur la salle du festin, s'agenouillèrent sur un canapé et écartèrent les fleurs pour ne rien perdre de ce qui allait se passer. Le fils du régent, âgé de 15 ans et demi, était assis dans un fauteuil et faisait justement face à son père. De l'autre côté de la table, et tournant le dos aux deux curieux, était le chevalier de M, deux femmes, d'une parure plus éblouissante que réservée, complétaient la partie carrée promise par Dubois au régent. L'une était assise à côté du jeune prince, l'autre à côté du chevalier. L'amphitryon qui ne buvait pas pérorait. La femme qui était près de lui faisait la moue, et quand elle ne faisait pas la moue, bâillait. « Ah ça !» dit-il en essayant de reconnaître la femme placée en face de lui, le duc qui était myope. « Il me semble que je connais cette figure-là !» Et il lorgna la femme avec plus d'attention encore. Dubois riait sous cape. « Mais voyons donc, continua le régent, une femme brune avec des yeux bleus. »«
Une femme brune avec des yeux bleus, reprit Dubois. Allez, monseigneur, cette taille ravissante, ces mains effilées. »
Allez toujours.
Ce petit museau rose.
Encore, allez.
Mais, corbleu, je ne me trompe pas, c'est la souris.
Allons donc.
Comment, scélérat, tu as été justement choisir la souris?
Oh, une fille des plus ravissantes, monseigneur, une nymphe d'opéra. Il m'a semblé que c'était ce qu'il y avait de mieux pour dégourdir un jeune homme.
C'était donc là la surprise que tu me ménageais quand tu m'as dit qu'il était servi par les laquais de son père, qu'il buvait les vins de son père et qu'il faisait l'amour à la maîtresse de son père. Oui, monseigneur, c'est bien cela.
Malheureux, s'écria le duc, c'est presque un inceste que tu as fait là.
Bah, dit Dubois, puisqu'on le lance.
Et la drôlesse accepte ces parties-là.
C'est son état, monseigneur.
Et avec qui croit-elle être?
Avec un gentilhomme de province qui vient manger sa légitime à Paris.
Et quelle est sa compagne?
Quant à cela, je n'en sais absolument rien. Le chevalier de M s'est chargé de compléter la partie.
En ce moment, la femme qui était assise près du chevalier, croyant entendre chuchoter derrière elle, se retourna.
Mais, s'écria Dubois, stupéfait à son tour, je ne me trompe pas.
« Quoi ?
L'autre femme ?»«
Eh bien, l'autre femme, demanda le duc. » La jolie convive se retourna de nouveau.
« C'est Julie ! » s'écria Dubois, la malheureuse.
« Ah, pardieu, dit le duc, voilà qui rend la chose tout à fait complète. Ta maîtresse est la mienne. Ah, parole d'honneur, je donnerais bien des choses pour pouvoir rire à mon aise. »«
Attendez, monseigneur, attendez. »
« Eh bien, es-tu fou? Que diable vas-tu faire, Dubois? Je t'ordonne de rester. Je suis curieux de voir comment tout cela finira.
« Je vous obéis, monseigneur du Dubois, mais je vous déclare une chose.
Laquelle? C'est que je ne crois plus à la vertu des femmes.
« Dubois, dit le régent en se renversant sur le canapé, pendant que Dubois en faisait autant.
« Tu es adorable, ma parole d'honneur. Laisse-moi rire ou j'étouffe.
»« Ma foi, monseigneur, rions, dit Dubois, mais rions doucement.
« Vous avez raison, il faut voir comment cela finira. »
Et tous deux rirent le plus silencieusement qu'ils purent, après quoi ils reprirent à leur observatoire la place qu'ils avaient un instant abandonnée. La pauvre souris bâillait à se démonter la mâchoire.
« Savez-vous, monseigneur, dit Dubois, que monsieur Louis n'a pas l'air étourdi du tout ?»«
C'est-à-dire que l'on dirait qu'il n'a pas bu. »
« Et ces bouteilles vides que nous voyons là-bas, est-ce que vous croyez qu'elles ont fui toutes seules ?»
Tu as raison, mais néanmoins, il est bien grave, le gentilhomme.
Ayez donc patience, tenez, il s'anime. Écoutez, il va parler.
En effet, le jeune duc, se levant de son fauteuil, repoussa de la main la bouteille que lui tendait la souris.
J'ai voulu voir, dit-il sentencieusement, ce que c'est qu'une orgie. Je l'ai vu, et je me déclare tant soit peu satisfait. Un sage l'a dit. « Ebrietas omne vitium deliquit. »«
Que diable chante-t-il là ?» dit le duc.
« Cela va mal, dit Dubois. »«
Comment, monsieur ?» s'écria la voisine du jeune duc, avec un sourire qui fit briller une rangée de dents plus jolie que des perles.
« Comment, vous n'aimez pas à souper ?»«
Je n'aime plus manger ni boire, » répondit monsieur Louis, « quand je n'ai plus ni faim ni soif. »
Le sot, murmura le régent, et il se tourna vers Dubois qui se mordait les lèvres. Le compagnon de Monsieur Louis se mit à rire et lui dit « Mon cher, vous êtes province à faire frémir. » « Ah ça ?» demanda le régent. « Comment diable ce jeune homme parle-t-il ainsi, un prince de sang ?»« Il est censé ne pas savoir qui il est et le croire un simple gentilhomme. D'ailleurs, je lui ai dit de le pousser. « Je m'en applaudis, monsieur, si cela doit me distinguer de certains airs parisiens de ma connaissance, » répondit monsieur Louis. « Allons, pas mal riposté, » dit le duc. « Peu, fit Dubois. » Si c'est pour moi que vous dites cela, monsieur, je vous répondrai que vous n'êtes pas poli, ce qui ne serait encore rien vis-à-vis de moi, à qui vous pouvez rendre raison de votre impolitesse, mais ce qui n'a point d'excuse près de ces dames. Ton provocateur va trop loin, l'abbé, dit le régent inquiet, et tout à l'heure ils vont se couper la gorge. Eh bien, nous les arrêterons, reprit Dubois. Le jeune prince ne sourcilla point, mais, se levant et faisant le tour de la table, il s'approcha de son compagnon de débauche et lui parla à demi-voix. « Vois-tu, dit à Dubois le régent ému, prenons garde, l'abbé, que diable, je ne veux pas qu'on me le tue. » Mais Louis se contenta de dire au jeune homme, « La main sur la conscience, monsieur, est-ce que vous vous amusez ici? Quant à moi, je vous déclare que je m'ennuie horriblement. Si nous étions seuls, je vous parlerais d'une question assez importante qui m'occupe en ce moment sur le 6e chapitre des Confessions de Saint-Augustin. » Le régent poussa un profond soupir. Dubois se gratta le bout du nez. « Foi de gentilhomme, dit le prince, c'est déshonorant pour la race. Les femmes vont s'endormir. »« Attendons, dit Dubois, peut-être, si elles s'endorment, s'enhardira-t-il. »« Ventre bleu, dit le régent, s'il avait dû s'enhardir, ce serait déjà fait. Elle lui a lancé des œillades à ressusciter un mort. Tiens, regarde, renversée comme elle l'est sur ce fauteuil, n'est-elle pas charmante ?» Tenez, dit Louis, il faut que je vous consulte là-dessus. Saint Jérôme prétend que la grâce n'est réellement efficace que lorsqu'elle arrive par la contrition. Le diable vous emporte, s'écria le gentilhomme. Si vous aviez bu, je dirais que vous avez le vin mauvais. Cette fois, monsieur, répondit le jeune prince, ce sera mon tour de vous faire observer que c'est vous qui êtes impoli, et je vous répondrai sur le même ton si ce n'était péché que de prêter l'oreille aux injures. Mais, Dieu merci, je suis meilleur chrétien que vous. Quand on soupe dans une petite maison, reprit le chevalier, il ne s'agit pas d'être bon chrétien, mais bon convive, foin de votre société, j'aimerais mieux Saint-Augustin lui-même, fût-ce après sa conversion. Le jeune duc sonna. Un laquais se présenta. Reconduisez et éclairez monsieur, dit-il d'un air de prince. Quant à moi, je partirai dans un quart d'heure. Chevalier, avez-vous votre voiture ? Non, ma foi. En ce cas, disposez de la mienne, dit le jeune duc, désespéré de ne pouvoir cultiver votre connaissance, mais je vous l'ai dit, vos goûts ne sont pas les miens. D'ailleurs, je retourne dans ma province. Par Dieu, dit Dubois, il serait curieux qu'il renvoyât son convive pour rester seul avec les deux dames. Oui, dit le duc, ce serait curieux, mais cela n'est pas. En effet, pendant que le duc et Dubois échangeaient quelques mots, le chevalier s'était retiré, et Louis d'Orléans, resté seul avec les deux femmes, véritablement endormi, ayant tiré de la poche de son habit un grand rouleau de papier et de celle de sa veste un petit crayon de vermeil, se mit à faire des annotations en marge avec une ardeur toute théologique, au milieu des plats encore fumants et des bouteilles à moitié vides. Si ce prince-là fait jamais ombrage à la branche aînée, dit le régent, j'aurais bien du malheur. Ah, qu'on dise maintenant que j'élève mes enfants dans l'espoir du trône. Monseigneur, dit Dubois, je vous jure que j'en suis malade. Ah, Dubois, ma fille cadette janséniste, ma fille aînée philosophe, mon fils unique théologien, je suis endiablé, Dubois. Ma parole d'honneur, si je ne me retenais, je ferais brûler tous ces êtres malfaisants. Pendant 10 minutes à peu près, Louis d'Orléans continua ses annotations. Puis, lorsqu'il eut fini, il remit précieusement le manuscrit dans sa poche, se versa un grand verre d'eau, trempa dedans une croûte de pain, fit dévotieusement sa petite prière et savoura avec une espèce de volupté ce souper d'anachorète.
« Des macérations !» murmura le régent au désespoir. « Mais je te le demande, Dubois, qui diable lui a donc appris cela ?»«
Ce n'est pas moi, monseigneur, dit Dubois. Quant à cela, je vous en réponds. » Le prince se leva et sonna de nouveau. « La voiture est-elle de retour ? » demanda-t-il au laquais. « Oui, monseigneur. » « C'est bien, je m'en vais. Quant à ces dames, vous voyez qu'elles dorment. Quand elles s'éveilleront, je vous mettrai à leurs ordres. »
Le laquais s'inclina, et le prince sortit du pas d'un archevêque qui donne sa bénédiction.
« La peste t'étouffe de m'avoir fait assister à un pareil spectacle, » dit le régent au désespoir.
« Heureux père, répondit Dubois, trois fois heureux père que vous êtes, monseigneur. Vos enfants se font canoniser d'instinct, et l'on calomnie cette sainte famille. Par mon chapeau de cardinal, je voudrais que les princes légitimes fussent ici. »
« Eh bien, dit le régent, je leur montrerai comment un père répare les torts de ses fils. Viens, Dubois. »«
Je ne comprends pas, monseigneur. »
« Dubois, le diable m'emporte, la contagion te gagne. »«
Oui, toi, il y a là un souper dressé à manger, il y a là du vin débouché à boire, il y a là deux femmes endormies à réveiller. Et tu ne comprends pas, Dubois, j'ai faim, Dubois, j'ai soif, entrons et reprenons les choses où cet imbécile-là les a laissées. Comprends-tu maintenant ?»
« Ah, ma foi, c'est une idée, cela, dit Dubois, en se frottant les mains, et vous êtes le seul homme, monseigneur, qui soyez toujours à la hauteur de votre réputation. »
Les deux femmes dormaient toujours. Dubois et le régent quittaient leur cachette et entrèrent dans la salle à manger. Le prince alla s'asseoir à la place de son fils et Dubois à celle du chevalier. Le régent coupa les fils d'une bouteille de vin de champagne, et le bruit que fit le bouchon en sautant réveilla les dormeuses.
« Ah, vous vous décidez enfin à boire, dit la souris.
Et toi, à te réveiller, répondit le duc. »
Cette voix frappa l'oreille de la pauvre femme comme eût fait une secousse électrique. Elle se frotta les yeux, comme si elle n'eût pas été bien sûre d'être éveillée, se leva à demi et, reconnaissant le régent, retomba sur son fauteuil en prononçant deux fois le nom de Julie. Quant à celle-ci, elle était comme fascinée par le regard railleur et la tête grimaçante de Dubois.
« Allons, allons, la souris, dit le duc, je vois que tu es une bonne fille, tu m'as donné la préférence. Je t'ai fait inviter par Dubois à souper, tu avais mille affaires à droite et à gauche, et cependant tu as accepté. »
La compagne de la souris, plus effarouchée qu'elle encore, regardait Dubois, le prince et son ami, rougissaient et perdaient connaissance.
« Qu'avez-vous donc, mademoiselle Julie ?» demanda Dubois. « Est-ce que monseigneur se trompait ? Seriez-vous par hasard venu pour d'autres que pour nous ?»«
Je ne dis pas cela, » répondit mademoiselle Julie.
La souris se mit à rire.
« Si c'est monseigneur, dit-elle, qui nous a fait venir, il le sait bien et n'a pas de questions à faire. Si ce n'est pas lui, il est indiscret, et alors je ne réponds pas. »
« Eh bien, quand je te le disais, l'abbé, s'écria le duc en riant comme par secousse, quand je te le disais que c'était une fille d'esprit.
Et moi, monseigneur, dit Dubois, en versant à boire à ses demoiselles et en effleurant le verre de vin de champagne de ses lèvres, quand je vous disais que le vin était excellent.
« Voyons la souris, dit le régent, est-ce que tu ne le reconnais pas, ce vin ?»
« Ma foi, monseigneur, dit la duchesse, il en est du vin comme des amants. »«
Oui, je comprends, tu ne peux pas avoir la mémoire trop large. Décidément, souris, tu es non seulement la plus brave, mais encore la plus honnête fille que je connaisse. »«
Ah, tu n'es pas hypocrite, toi, » continua le duc en poussant un soupir.
« Eh bien, monseigneur, reprit la souris, puisque vous le prenez comme ça,
eh bien, quoi ?»
« C'est moi qui vais vous interroger. »«
Interroge, je répondrai. »«
Vous connaissez-vous en rêve, monseigneur ?
Je suis devin. Alors, vous pouvez m'expliquer le mien ?
Mieux que personne, sourit. D'ailleurs, si je restais court dans mon explication, voilà l'abbé qui me compte 2 millions par an pour certaines dépenses particulières qui ont pour but de connaître les bons et les mauvais rêves que l'on fait dans mon royaume. Eh bien, si je restais court, l'abbé achèverait. Dis donc ton rêve.
Monseigneur, vous savez que, las de vous attendre, Julie et moi, nous nous étions endormis.
Oui, je sais cela. Vous vous en donniez même à cœur joie quand nous sommes entrés.
Eh bien, monseigneur, non seulement je dormais, mais encore je rêvais.
Vraiment ?
Oui, monseigneur, je ne sais pas si Julie rêvait ou ne rêvait pas, mais quant à moi, voilà ce que je croyais voir.
Écoute, Dubois, cela m'a l'air de devenir intéressant.
À la place où est monsieur l'abbé se trouvait un officier dont je ne m'occupais pas. Il me semblait qu'il était là pour Julie.
Vous entendez, mademoiselle, dit Dubois, voilà une terrible accusation que l'on porte contre vous. Julie, qui n'était pas forte et que, par opposition à la souris dont elle partageait ordinairement les excursions amoureuses, on avait nommé le rat, au lieu de répondre, se contenta de rougir.
« Et à ma place, demanda le duc, qui avait-il, voyons ?»«
Ah, voilà justement où j'en voulais venir, dit la souris. À la place de monseigneur, il y avait, dans mon rêve, toujours. »«
Parbleu, dit le duc, c'est entendu. »
Il y avait un beau jeune homme de 15 à 16 ans, mais si singulier qu'on eût dit une jeune fille, si ce n'est qu'il parlait latin.
« Ah, ma pauvre souris !» s'écria le duc, « que me dis-tu là ?»
Enfin, après une heure de conversation théologique, de dissertations des plus intéressantes sur saint Jérôme et saint Augustin, d'aperçus extrêmement lumineux sur Jansénius, ma foi, monseigneur, je l'avoue, il me sembla, dans mon rêve toujours, que je m'endormais.
« De sorte que, dans ce moment-ci, reprit le duc, tu rêves que tu rêves. »
« Oui, cela me paraît si compliqué que, ma foi, curieuse d'avoir une explication, ne pouvant arriver à me la donner moi-même, jugeant qu'il est inutile de la demander à Julie, je m'adresse à vous, monseigneur, qui êtes un grand devin, vous me l'avez dit vous-même, pour obtenir cette explication. »
« Souris, dit le duc en versant de nouveau à boire à sa voisine, goûte sérieusement le vin, je crois que tu as calomnié ton palais. »
En effet, monseigneur, reprit la souris après avoir vidé son verre, ce vin me rappelle certains vins que je n'avais encore bu
qu'au palais royal.
Ma foi, oui.
Eh bien, si tu n'as bu de ce vin qu'au palais royal, c'est qu'il n'y en a que là, n'est-ce pas? Tu es assez répandu dans le monde pour rendre cette justice à ma cave.
Oh, je la lui rends hautement et de grand cœur.
Or, s'il n'y a de ce vin-là qu'au palais royal, c'est donc moi qui ai envoyé ce vin-là ici.
Vous, monseigneur?
Moi, ou Dubois, enfin, tu sais bien qu'outre la clé de la bourse, il y a encore la clé de la cave.
La clé de la cave, cela se peut, dit mademoiselle Julie, qui se décidait enfin à hasarder une parole, mais celle de la bourse, on ne s'en douterait guère.
« Entends-tu, Dubois ? » s'écria le régent.
« Monseigneur, dit l'abbé, comme votre Altesse a pu le remarquer, l'enfant ne parle pas souvent, mais quand elle parle par hasard, c'est comme Saint-Jean bouche d'or, par sentence.
Et si j'ai envoyé ce vin-là, ce ne peut être que pour un duc d'Orléans. »«
Mais il y en a deux, dit la souris. »«
Oui, da, fit le régent. »
« Le fils et le père, Louis d'Orléans, Philippe d'Orléans.
« Tu brûles, la souris, tu brûles.
« Comment ? » s'écria la danseuse en se renversant sur son fauteuil et en éclatant de rire. « Comment ce jeune homme, cette jeune fille, ce théologien, cette janséniste ?»«
Va donc, que je voyais dans mon rêve.
« Oui ?»«
Là, à votre place,
à l'endroit même où me voilà. »
« C'est monseigneur le duc d'Orléans ?»«
En personne. »
Ah, mon seigneur, reprit la souris, que votre fils ne vous ressemble guère et que je suis bien aise de m'être réveillée.
Ce n'est pas comme moi, dit Julie.
Eh bien, quand je vous le disais, monseigneur, s'écria Dubois, Julie, mon enfant, continua l'abbé, tu vaux ton pesant d'or.
Alors, dit le régent, tu m'aimes donc toujours, souris?
Le fait est que j'ai un faible pour vous, monseigneur.
Malgré tes rêves?
Oui, monseigneur, et même quelquefois à cause de mes rêves.
Ce n'est pas bien flatteur si tous tes rêves ressemblent à celui de ce soir.
Je prie votre Altesse de croire que je n'ai pas le cauchemar toutes les nuits.
Et sur cette réponse, qui confirma encore son Altesse royale dans son opinion que la souris était décidément une fille d'esprit, le souper interrompu recommença de plus belle et dura jusqu'à 3 heures du matin. À laquelle heure le régent ramena la souris au palais royal dans le carrosse de son fils, tandis que Dubois reconduisait Julie chez elle dans la voiture de monseigneur. Mais avant de se coucher, le régent, qui n'avait que difficilement vaincu la tristesse que toute la soirée il avait essayé de combattre, écrivit une lettre et sonna son valet de chambre. « Tenez, lui dit-il, veillez à ce que cette lettre parte ce matin même par un courrier extraordinaire et ne soit remise qu'en main propre. » Cette lettre était adressée à Madame Ursule, supérieure des Ursulines de Clisson.